C'est de la mémoire, c'est de l'histoire, et maintenant on va parler de l'histoire aussi, et d'une mémoire. Mémoire, le titre du livre, Pétain, Salazar, De Gaulle, Affinité, Ambiguïté, Illusion, 1940-1944. Et notre invité, c'est l'ambassadeur Patrick Gautrat. Monsieur Gautrat, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être à nouveau parmi nous. Alors, je rappelle, entre autres, vous avez été ambassadeur au Portugal. Justement, ce Portugal, on va parler du livre et du contenu, parce que ça donne à réfléchir, parce que c'est un pan de l'histoire européenne, et pas seulement, qui a été vécu à Lisbonne. Bon, il y a des liaisons avec Londres, avec Paris, avec le Maroc, etc., etc., même les États-Unis. On va y arriver. Mais pour vous, le Portugal, vous l'avez découvert, vous étiez assez jeune encore.
Ah, j'étais très jeune, puisque j'avais 12 ans, mon père était ingénieur employé en France, et il était consultant d'une entreprise portugaise à Porto, qui fabriquait des bouteilles de butane. Donc il venait 3 à 4 fois par an surveiller la production, et tous les étés sans exception, de 1956 à 1962, nous avons passé en famille 2 à 3 mois au Portugal.
Alors, c'est Portugal, on va revenir en 1940-1944. Bon, la situation, je pense que nos auditeurs la connaissent. En France, il y avait un régime de Vichy. Une partie de la France était occupée par les Allemands. Au Portugal, bon, le Portugal, c'était des alliés. Bon, ça faisait des siècles avec le Royaume-Uni, avec l'Angleterre. Donc, c'est un contexte assez difficile. Alors, comment est-ce qu'on pourrait parler des relations entre le Portugal et la France? Et peut-être commencer par le début. Est-ce qu'il y avait vraiment des affinités entre Pétain et Salazar?
Ah, il y avait des affinités très fortes entre la droite française traditionnelle, qui s'incarnait à cette époque-là, évidemment, dans le maréchal Pétain, et puis le régime de Salazar, l'État nouveau depuis 1933, qui apparaissait à ces groupes, à ces partis, à ces ligues, comme un modèle. Et on rappelle que pour tout homme de droite qui se respectait, il fallait aller à Lisbonne, faire le voyage et voir Salazar, le rencontrer, l'écouter et boire sa parole. C'était un modèle, véritablement, pour toute une partie de la classe politique française.
Et en même temps, il paraît que Pétain, il a essayé de s'inspirer d'un certain nombre de choses qui avaient été mises en place par Salazar. Sur quels moyens est-ce que ça correspond à une réalité?
C'est peut-être la première question. Écoutez, oui, ça correspond en tout cas à une intention, parce que cette affinité, d'abord, ce qui était intéressant de noter, c'est que les slogans, en quelque sorte, des deux régimes étaient pratiquement identiques. Travail, famille et patrie. Bon, le portugais rajoutait Dieu et rajoutait l'autorité. Mais c'était la même veine, c'est-à-dire des États très conservateurs qui abolissaient toute dispute sociale, pas de droit de grève, pas de syndicat libre, et un droit d'association terriblement contrôlé. Donc des États autoritaires, et les deux régimes à cet égard étaient très semblables, avec comme credo le corporatisme, qui était l'idée qui avait connu un grand succès en France à la fin du 19e siècle, ce corporatisme qui permettait de surmonter les divisions sociales en abolissant la lutte des classes et théoriquement en retrouvant l'unanimité pour tout le monde autour d'un certain nombre d'objectifs communs. Donc ce corporatisme, il existait au Portugal en théorie, beaucoup plus en théorie d'ailleurs qu'en pratique, depuis 1933, depuis la nouvelle constitution portugaise que Salazar avait promulguée. Et en France, Pétain a institué ce qu'on a appelé une charte du travail en 1941, et qui était profondément inspiré des idéaux du corporatisme. Donc le corporatisme, c'était un premier exemple de non seulement d'affinité, mais de similitude entre les deux régimes. L'autre exemple, c'était les institutions. Le Portugal avait une constitution depuis 1933, donc, qui était une constitution autoritaire, avec une assemblée nationale purement, qui faisait que entériner ce qu'on lui disait d'entériner, et le pouvoir appartenait au chef, en l'occurrence Pétain, et au Portugal, le président de la République étant essentiellement honorifique, c'était Salazar, le Premier ministre, qui prenait les décisions avec le cabinet. Dans les deux pays, on avait un cabinet qui était très puissant, mais qui était, je le répète, complètement sous la coupe du chef.
Alors, on sait que, bon, tant qu'il y a eu la région, bon, il y avait une partie de la France, la moitié de la France qui était occupée par les nazis, l'autre partie, bon, c'était nouveau qui était. Et chose étonnante, il y avait des échanges commerciaux entre le régime de Vichy et le régime de Salazar, notamment autour des phosphates qui venaient du Maroc.
Absolument, absolument, parce que l'agriculture portugaise avait un besoin vital de phosphates. Et donc Salazar, au début, ça ne posait aucun problème puisque le Maroc était contrôlé par Vichy, par le résident général Nogués. Salazar a négocié pratiquement souvent lui-même, de façon extrêmement dure, la livraison de centaines de milliers de tonnes de phosphate par la France, donc par le Maroc, au Portugal. Là où les choses se sont compliquées, vous venez de le rappeler très justement, c'est quand la France a été envahie intégralement et que par les Allemands et que l'Afrique du Nord est passée sous le contrôle des Anglo-Saxons et du gouvernement d'Alger. Alors là, c'est un des centres de réflexion du livre. Qu'est-ce qu'allait faire Salazar ? Il voulait continuer à avoir du phosphate. Et en même temps, ça impliquait qu'il discute avec des gens qu'il ne reconnaissait pas. Car jusqu'en août 1944, c'est-à-dire jusqu'au départ des Allemands de Vichy, Salazar a refusé de désavouer Pétain et il a continué de reconnaître le régime de l'État français, le régime de Pétain. Donc comment a-t-il fait, Salazar, pour concilier cette attitude avec son désir de ne pas reconnaître la France libre, de ne pas reconnaître Alger, eh bien c'est tout l'art de l'ambiguïté dont on parle dans la deuxième partie, puisqu'il a réussi à maintenir les uns et les autres, c'est-à-dire à continuer de donner sa reconnaissance officielle à Vichy, mais en même temps à discuter, négocier avec les gens d'Alger, et continuer à recevoir le phosphate.
Oui, mais
C'est arrivé à un point tel qu'il a donné, Salazar, au représentant de Vichy, un véritable statut diplomatique qui ne disait pas son nom. Donc c'était une reconnaissance de facto, même si elle n'était pas officielle.
Voilà. Alors, mais justement, avec le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, là, les choses changent et à un moment donné, on a trois représentants français à Lisbonne, à savoir le régime de Vichy, des représentants du général Giraud, et ça, bon, on va pas refaire un peu ce qui s'est passé avec De Gaulle, Churchill et Roosevelt, et également, donc, la dissidence, entre guillemets, gaulliste, trois représentants de la France, entre guillemets, bon, parce que personne n'avait sur le papier le statut de diplomate, mais enfin, comment jouer? Bon, c'est un numéro d'équilibriste, tout ça.
Écoutez, les gens de Vichy avaient un statut, officiel.
Officiel.
Mais, comme on l'explique dans le livre, pendant toute une partie de l'année fin 42 et jusqu'au printemps 43, il n'y a pas eu de représentation de Vichy. Donc on était dans une situation extrêmement paradoxale où Vichy n'avait pas de représentation véritablement au niveau d'un ministre plénipotentiaire et simplement d'un chargé d'affaires, et les gens de Londres, comme d'Alger, c'est-à-dire les gaullistes et les giraudistes, eux avaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un statut quasiment diplomatique, officieux, c'est-à-dire qu'ils pouvaient délivrer des visas, ils pouvaient avoir des passeports diplomatiques, ils pouvaient avoir une valise diplomatique. C'était une situation effectivement extrêmement compliquée. Alors ce qui est amusant et intéressant dans cette histoire, enfin, amusant est un mot qui se marie peut-être mal avec la tragédie de cette époque, encore qu'à Lisbonne, on vivait dans des conditions finalement bien meilleures que dans l'Europe occupée. Il y a eu, si vous voulez, une de la part des gens de Londres et de Giraud, qui était à l'époque théoriquement au-dessus de De Gaulle, une volonté d'être reconnu et d'être reconnu seul. Alors d'abord, vous l'avez très bien dit, et c'est très français, de façon divisée, d'un côté des Giraudistes, de l'autre côté les Gaullistes, et puis en face les malheureux de Vichy qui étaient sans chef à Lisbonne et qui se battaient pour au départ exister. Et très rapidement apparaît sur la scène un homme intéressant qui était le chargé d'affaires de Vichy, Baraduc, qui se perçoit que au fond la bataille est perdue pour les gens de Vichy, parce que l'amiral Darlan, vous vous en souvenez peut-être, avait été assassiné à Alger, et il représentait pour beaucoup une solution de transition après Vichy. Bon, Darlan assassiné, il est certain qu'une hypothèse Vichy était beaucoup plus aléatoire. Donc, les gens de Vichy et les gens de chez Giraud poussent Baraduc à exiger des Portugais d'être reconnus officiellement. Et là, on a des passages savoureux, des moments extraordinaires où les diplomates portugais du ministère des Affaires étrangères continuent de faire la sourde oreille et disent non, 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 nous ne pouvons pas reconnaître autre chose que le gouvernement de Vichy. Donc ça va être une des originalités de cette relation franco-portugaise. C'est le gouvernement de Vichy reste le seul reconnu, même si c'est le contenu est de plus en plus faible, on le montre dans le livre, à partir de fin 1942, et les gens de Londres et d'Alger essayent désespérément d'obtenir une reconnaissance qu'ils n'obtiendront pas. Donc ça va polluer. J'en parle à la fin du livre, ça va polluer un peu les relations franco-portugaises d'après la guerre, parce que De Gaulle avait certaine antipathie pour Salazar, qu'il appelait l'idole de Vichy, et il ne l'avait jamais rencontré, à la différence de Franco, qu'il a rencontré en 1970. De Gaulle a toujours eu pour Salazar une très grande réticence, et c'est un élément à prendre en compte dans toute cette histoire, l'absence de contact direct entre d'abord les gens de Vichy et les Portugais, pas de contact autre que contact diplomatique à travers les représentations officielles, pas de visite de ministres ou de personnalités de ce genre. Donc ça nuit incontestablement aux relations.
Une distance finalement entre eux.
Une distance, oui, entre eux. Les Portugais ne voulant pas, ne démordant pas, il y avait un secrétaire général aux affaires étrangères portugais qui s'appelait Teixeira de Sampaio, qui a expliqué que il n'était pas question jamais de reconnaître autre chose que le régime de Vichy. Alors les gens de Londres et d'Alger lui ont rappelé que Salazar, en 1938, avait reconnu le régime de Franco, alors qu'il y avait un régime légal, le régime républicain. Donc pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi Salazar ne voulait pas faire avec les Français ce qu'il avait fait avec les Espagnols? Salazar a dit que ça n'avait rien à voir parce que la République espagnole avait souhaité ouvertement la disparition du Portugal, et donc il était normal que
de reconnaître le régime
franco. L'État nouveau travaille avec l'État autoritaire de Franco et pas avec la République.
Monsieur Gautra, je rappelle l'ancien ambassadeur au Portugal. Alors, il faut dire que bon, vous avez accès à des archives, il y a plein de choses. Et on n'a pas le temps de parler maintenant parce qu'il faut lire aussi, parce que vous parlez le règne des bobards. Alors, les bobards, boîtes en portugais, actuellement, on dit fake news. Et voir ce valet diplomatique, savoir toute l'hypocrisie qu'il y a dedans, qu'il y avait à cette époque-là, c'est vraiment une tranche de l'histoire très intéressante. Pétain, Salazar, Balthazar, De Gaulle, Affinité, Ambiguïté, Illusion, 1940-1944, chez Chandaigne. Et justement, M. Gautra, vous allez être reçu au mémorial de la Shoah le dimanche 12 mai à 14h30.
Oui, le 12 mai, on va être plusieurs, notamment Patrick Stroman qui a écrit un très beau livre sur Lisbonne pendant la guerre, et mon ami Léonard, Yves Léonard, qui m'a fait l'amitié de faire l'introduction du livre, et on discutera à plusieurs de ce livre et de cette période très méconnue de l'histoire des deux pays, France comme Portugal.
Voilà, M. Patrick Gautra, merci, à très bientôt. Merci bien.
Je vous en prie.